France Inter. .fr.
Bonjour, c'est Valeria Bruni-Tedeschi, actrice et réalisatrice, qui est l'invitée de Vous avez dit classique. Comédienne pétrie d'humour, aimant jouer des rôles qui frôlent avec le burlesque, c'est une femme libre qui a choisi depuis ses premiers pas de réalisatrice de se montrer telle qu'elle, ou du moins dans ses failles. Fille de musicien, sa mère, qui ces dernières années se présente comme actrice et apparaît régulièrement sur nos écrans, Marisa Borini, était autrefois pianiste et concertiste. Son père, Alberto Bruni-Tedeschi, fut un grand industriel italien, mais également compositeur. Alors, si elle a baigné dans la musique depuis l'enfance, oui, certes, mais elle a choisi de devenir comédienne en faisant école avec Patrice Chéreau aux Amandiers de Nanterre. Valeria Bruni-Tedeschi commence à jouer à l'âge de 19 ans au théâtre, la télévision, puis c'est avec Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel de Laurence Ferreira Barbosa qu'elle est révélée au grand public en obtenant le César du meilleur espoir féminin. Elle se met à réaliser à partir de 2002 trois longs métrages et un téléfilm à ce jour. Elle est actuellement à l'affiche de Malout de Bruno Dumont et à partir de la semaine prochaine dans Folle de joie de Paolo Virzi. Mais c'est pour nous parler de musique qu'elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien, ça va, merci.
Alors c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de piano au programme aujourd'hui, hein, avec votre mère pianiste, bien sûr. Et puis dans les interviews qui sont consacrés à votre mère, on apprend que vous avez appris le piano vous-même, vous en jouez plus trop.
Oui, enfin, je n'ai joué quand j'étais petite beaucoup, et puis après, bêtement, j'ai arrêté, après j'avais repris, et j'ai toujours le rêve de reprendre. J'ai entendu quelqu'un, un scientifique, qui disait, j'ai repris le piano que je faisais quand j'étais petite, à 70 ans, j'ai recommencé le piano, et j'en fais une heure par jour. Et, alors ça m'a donné un grand espoir, je me suis dit qu'en fait, c'était possible, mais j'ai toujours comme ça. Je dis, un jour, je recommencerai le piano. Voilà.
Vous avez un piano chez vous ?
Ouais, j'ai le piano de mon père. Ouais.
Alors, on va commencer cette émission avec un interprète que vous aimez beaucoup, je crois, en tout cas, qui a un pianiste très important en Italie, puisque
il est considéré dans le monde entier.
Oui, c'est vrai, mais en Italie, il est considéré comme le deuxième plus important après Ferruccio Busoni, que c'est donc pas du tout n'importe qui. Il s'agit d'Arturo Benedetti Michelangeli. Alors, on va l'écouter dans une de ses dernières interprétations enregistrées. Il s'agit du concerto en sol de Ravel, avec une puissance technique et une virtuosité irréprochable. C'est pour ça notamment qu'il était connu. Le voici dans ce concerto en sol et vraiment pas une note de travers, vous l'entendrez. Pourtant, il est à la fin de sa vie. Thank you. Le troisième mouvement du concerto en sol majeur de Maurice Ravel, enregistré live, le Presto, donc par l'orchestre symphonique de la NHK de Tokyo sous la direction d'Alexander Rumpf, et c'est Arturo Benedetti Michelangeli qui interprétait au piano. Pour démarrer avec vous, Valeria Bruni-Tedeschi, c'est un pianiste que vous avez beaucoup entendu jouer, peut-être que vous avez croisé, connu,
parce
que
non,
vos parents
non.
étaient...
Non, non, je ne l'ai pas connu, mais j'ai vu des vidéos de lui et je trouve qu'il est vraiment incroyable. Je sais pas, on a envie de dire c'est un génie, parce que c'est un génie parce qu'il y a des très très bons pianistes, des très grands pianistes, et pas de tous on a envie de dire c'est un génie.
Non.
Alors pourquoi ? Alors je sais pas quelle est la différence qui fait que comme ça une personne même pas très parce que je suis pas spécialement connaisseuse non plus, je suis pas une pianiste, j'ai envie de dire comme ça instinctivement c'est un génie. C'est quelque chose qui fait qu'on a l'impression que qu'est-ce que c'est un interprète de génie, il y a une différence, il y a comme s'il y avait un niveau, comme si ça volait plus haut, comme si c'était plus puissant,
là,
ou s'il y avait la découverte de quelque chose, dans la découverte de comme s'il faisait surgir une autre la musique d'une façon nouvelle.
Comme si c'était chose. Lui, au fond, peut-être aussi qu'il avait écrit. Par exemple, ce concerto en sol, c'est étonnant de l'entendre.
Ouais, c'est différent,
de cette manière.
Il s'en empare, ouais.
Alors, on va écouter maintenant le prélude en mi mineur, numéro 4, opus 28 de Frédéric Chopin. Pourquoi celui-là ? Vous avez joué du piano enfant. Est-ce que c'est un prélude que vous avez joué vous-même ou que vous entendiez beaucoup à la maison, votre mère étant pianiste, Valeria Bruni-Tedeschi ?
Oui, c'est un prélude très, très connu. Gainsbourg a fait une chanson.
Jane Birkin l'ayant interprété.
Voilà. Moi, je joue pas. J'ai beaucoup joué quand j'étais petite, mais je jouais pas non plus très, très bien. Mais ça, c'est un morceau assez facile à jouer, que je jouais beaucoup. Et que si, quand on demande sur une île déserte, si tu veux amener un morceau, voilà, c'est peut-être la chose là que j'amènerais. Je trouve la chose la plus désespérante et parfaitement parfaite et humaine et profonde en musique, en tout cas en musique pour le piano que je connaisse. Et en plus, Chopin, voilà, j'ai peut-être une préférence particulière. Oui,
parce qu'il apparaît deux fois dans vos choix d'aujourd'hui.
Ouais. C'est comme Tchekhov.
Alors on va. Ah, c'est vrai, Tchekhov. Et vous pourriez tisser un lien entre les deux.
Ouais.
Ouais, c'est vrai. C'est la mélancolie.
Bah, je sais pas. Ouais, c'est bon. Tchekhov, il y a plus de d'humour. Hein.
Ouais,
il y a
ça, c'est vrai.
De l'humour, alors que voilà.
Alors, on va l'écouter, ce prélude le plus connu de Chopin, interprété par Alfred Cortot. Alors, c'est étonnant parce qu'il l'interprète, vous nous direz si vous appréciez, mais comme s'il hésitait à dire ses notes, comme on peut hésiter à dire ses mots, comme vous cherchez à l'instant vos mots pour décrire votre sentiment par rapport à ce prélude en mi mineur de Chopin. Le voici donc interprété par Alfred Cortot.
Thank you.
le prélude en mi mineur opus 28 numéro 4 des 24 préludes de Chopin, interprété par Alfred Cortot. Valeria Bruni Tedeschi, je voyais vous agiter en l'écoutant.
Pas trop quand même.
Un petit peu quand même.
Intérieurement.
Oui, parce que, en tout cas...
C'est comme une vie, c'est comme une existence entière pour moi, ce morceau. C'est comme le récit d'une existence.
En une minute 28.
Ouais. Avec les premiers pas, avec la jeunesse, avec l'espoir de la jeunesse, avec la tourmente, et puis avec mais avec peu à peu une descente qui arrive à la mort.
Et peut-être l'apaisement aussi.
Peut-être.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Valeria Bruni Tedeschi, vous avez donc joué du piano enfant, c'est vous qui l'aviez choisi ou ça s'est imposé comme
ça ? Non, ça se faisait dans la maison parce que ma mère, on avait... Enfin voilà, il n'y avait que du piano dans la maison, ma mère et mon père composait au piano, donc on passait de la musique contemporaine à la musique classique de ma mère, aux gammes, et donc nous on avait, en plus dans la bonne société de l'époque, tous les enfants prenaient des cours de piano en plus, mais nous c'était vraiment dans notre culture, et puis voilà, donc j'adorais, je pense que c'est la chose dans la vie dont pour laquelle j'aurais été le plus douée, en vrai, je pense que, voilà.
Que, et pourquoi vous avez abandonné?
Je sais pas dire, mais je pense que j'étais plus douée pour ça que. Mais bon, voilà, bah parfois c'est même bien de pas faire les choses pour lesquelles on est le plus douée. Peut-être c'est bien de travailler sur des choses plus. En tout cas, je sais pas. C'est comme ça. C'est mon destin.
Ouais. Alors votre père, vous en parliez à l'instant, compositeur. Bon, alors oui, qui était un industriel, mais qui composait par ailleurs. Il a composé énormément d'œuvres. On va écouter alors cette œuvre là qui est Diario, qui est donc le journal intime, les dernières pages. Je crois que c'est sa dernière composition. Hein, un an avant sa mort, c'est un ballet.
Pas sûr que ça soit la dernière, mais
en tout cas, enregistré visiblement.
Oui, peut-être.
Et alors, il avait aussi composé un opéra, je crois, pour vous. Enfin, vous étiez dedans. Ça s'appelait Paolino, la giusta causa e una buona ragione.
Ouais, c'était pas pour moi. C'était l'opéra existait. Et puis François Reichenbach, réalisateur de documentaires, a fait grand réalisateur très connu, a fait un film musical avec des acteurs qui comme c'était un opéra parlé, donc il a demandé à des acteurs, dont moi, qui était la fille du compositeur. Moi, je me sentais pas très légitime étant la fille du compositeur, ça me plaisait pas trop.
Ça vous gênait ou
ouais,
c'est...
Beaucoup, ouais, beaucoup.
Vous connaissiez bien ses œuvres, pour l'avoir entendu composer peut-être au piano, vous connaissiez bien ce qu'il...
Non, parce que c'est une musique compliquée, surtout pour des enfants, et puis... aussi de toute façon je trouve ça difficile pour des enfants de bien connaître le travail de nos parents, c'est comme s'il y avait une espèce de chose un peu angoissante, je sais pas,
une pudeur qui pourrait s'installer
ou une chose un peu réfractaire, je sais pas, et donc non, je connaissais pas bien, mais je trouve qu'il y a des très belles choses.
Bon, on va écouter en tout cas ce journal intime, dernière page, avec un essoufflement très court, mais pour découvrir l'univers de votre père et de sa composition.
Thank you.
L'essoufflement d'une puissance folle de l'épisode numéro 3 de Diario Ultime Pagine de Alberto Bruni Tedeschi, votre père Valeria ouais. Bruni Tedeschi. Ça vous émeut? Je voyais ému à l'écoute de ce morceau.
Bah oui, oui. Et puis aussi de penser qu'effectivement, quand les gens sont là, parfois on n'est pas assez attentionné à ce qu'ils font. Je me rends compte qu'avec beaucoup d'années de recul, parce qu'il est mort quand même il y a longtemps, j'écoute cette musique comme si c'était... avec de la distance, j'en ressens plus la puissance. Quand j'étais petite, j'avais presque peur de ce qu'il faisait. Je ne sais pas pourquoi.
Ouais. La peur de l'exposition, peut-être, sans doute aussi.
Je ne sais pas.
Vous disiez tout à l'heure que c'était peut-être le piano, la prédisposition la plus grande chez vous, c'était pour le piano, et pourtant vous avez choisi de devenir comédienne. Qu'est-ce qui vous a emmené sur ce terrain-là, Valéria?
J'ai étudié en fait la littérature, et puis et puis à un moment, peu à peu, enfin assez vite, comme un déclic. Je me souviens plus si c'était peu à peu ou très brusquement, mais je me suis rendu compte que j'avais envie de vivre les textes. On travaillait Tchekhov, par exemple, et j'avais plus envie de vivre les textes que de les étudier, de les analyser. Même si analyser, c'est intéressant, c'était excitant, mais tout d'un coup, j'avais envie de les vivre. Et alors, je me suis inscrite dans un cours de théâtre, et peu à peu, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire jouer, parce qu'au début, c'était quelque chose d'extérieur, et peu à peu, j'ai compris que c'était intérieur. C'était justement vivre, c'était pas dire.
Oui, parce qu'au départ, c'était simplement les mettre dans votre bouche.
Oui, c'est ça. Au départ, c'était les mettre dans ma bouche. C'était les réciter ou les dire ou m'exposer aux autres avec un texte. Et en fait, peu à peu, j'ai compris que c'était m'exposer aux autres avec un texte à l'intérieur de moi et qui allait bien au-delà des mots.
Alors là, on va aller sur un exercice encore au-delà des mots aussi, puisque c'est la musique qui se mélange aux mots avec l'opéra et cet opéra de Mozart, Don Giovanni, et le fameux catalogue,
C'est très banal. Mes choix sont pas très originaux. Hein.
Mais il n'y a pas besoin d'être original.
Je m'excuse auprès des gens.
Mais alors pourquoi ce choix-là, Valéria Bruni Tedeschi?
Bon, parce que c'est un opéra que j'ai. Il y a plein de raisons. Don Juan, c'est, je sais pas, ça fait partie de ma vie même amoureuse. J'étais tombée amoureuse d'un danseur quand j'étais petite, comme ça, qui dansait sur Don Juan. Et puis après, quand le film avec Raimondi est sorti, j'avais beaucoup aimé Ruggero ce film. Voilà.
Ouais.
Ruggero Raimondi. Et puis cet air du catalogue, je le trouve, très 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 jouissif et je pense même pour les enfants c'est beau à écouter,
j'adore. Drôle aussi,
c'est drôle, c'est ce qu'on disait avec Tchekhov, c'est que c'est mélancolique mais c'est drôle, et Mozart cette drôlerie de Mozart elle est irremplaçable.
Alors c'est effectivement l'un des airs les plus célèbres de Don Giovanni de Mozart, dans lequel alors le valet de Don Giovanni, Leporello, tente d'expliquer à Donna Elvira pourquoi Don Giovanni l'a abandonné. Alors pour lui expliquer, lui dit qu'elle n'est qu'une parmi une liste incroyablement longue de femmes, puisque rien qu'en Espagne, Don Giovanni en aurait eu 1003 et très.
Delle belle cavo il padron mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 281, in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, son già 1003. Ma fra queste contadine, cameriere e cittadine, la contesse baronesse, marchesane, principesse e bandone, ogni grado, ogni fama, ogni fama, ogni forma, ogni età. In Italia, 640, in Lamania, 231, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma in Hispania, ma in Hispania son già 1003, 1003, 1003. Ma poi queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e manzone, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma.
Un extrait de Madamina, il catalogo et questo de Don Giovanni de.
On a coupé avant, on a coupé avant sa passion prédominante, hein.
Qui est
la jeune principe, je sais pas comment on dit en français, la jeune débutante.
Ouais. Et effectivement, c'est un air extrêmement connu, interprété là par Laszlo Polgár et c'est l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam avec sous la direction de Nicolaus Harnoncourt, qui nous emmène sur le terrain qui est un terrain de prédilection en Italie, Valeria Bruni Tedeschi, le terrain de l'opéra. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous a?
Oui. Oui, en Italie, c'est vraiment, il y a vraiment une culture de ça. Avant, par exemple, quand il n'y avait pas la télévision, le cinéma, les gens, vraiment, c'est un art très, très populaire. À la Scala, les gens avaient toute une partie de la Scala qui coûtait, où les places coûtaient pratiquement rien, où les gens avaient l'habitude, la culture, la coutume d'aller. Donc, ça fait partie vraiment de la culture italienne. Je pense encore plus qu'en France, peut-être.
Là, vous chantiez pendant l'air. Mmh. Ça, on peut entendre chanter chez soi,
oui,
dans la rue, des,
oui,
airs encore.
Oui, oui, absolument. Ouais. C'est beaucoup plus dans la chanson populaire, l'opéra. Oui.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Valeria Bruni Tedeschi, on va poursuivre avec un grand classique aussi, dans un autre genre.
Que des banalités.
Non, c'est pas forcément banal. Ça dépend ce qu'on en dit. Alors, on va poursuivre avec le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, qui fait partie des classiques que vous avez choisis. On va l'écouter au clavecin, parce qu'au départ, c'est bien sûr composé. Pour le clavecin, je me demandais si c'était une œuvre que vous jouiez enfant.
Oui, c'est ça. C'est toujours ça. La même chose. C'est toujours, ça fait partie de mes 4, 5 seuls morceaux que je, que je joue depuis 40 ans. Et voilà, donc c'est le début, en plus je joue que le début évidemment, mais c'est très très jouissif, même à travailler, même pour quelqu'un qui joue pas très bien du piano, c'est agréable de travailler le début du clavecin bien tempéré, c'est tout de suite satisfaisant.
Oui, ça met tout de suite en place. D'ailleurs, Bach l'a écrit aussi pour cela, pour entraîner les doigts à la fois, pour prouver qu'on pouvait jouer de toutes les tonalités du clavier.
Je crois que ça avait été repris dans Bach Café. J'ai l'impression que c'est ça qu'il jouait quand il jouait. Il y avait un personnage qui jouait sur un faux piano. Je crois que c'était
le clavier bien tempéré. Bon, alors on va l'écouter, en tout cas interpréter au clavecin. Et vous allez l'écouter attentivement parce que j'aimerais savoir si ça peut, selon vous, remettre les idées en place, le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Prélude en ut majeur du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, le premier livre du clavier bien tempéré. Et c'était Kenneth Weiss au clavecin. Est-ce que donc, Valeria Bruni-Tedeschi, vous, en écoutant ce prélude du premier livre du clavier bien tempéré, vous avez eu le sentiment que c'était le genre de morceau qui, effectivement, quand on l'écoute, on arrive à se remettre les idées en place?
En tout cas, c'est sûr que ça arrête le bruit et la fureur de la vie quotidienne, et que ça peut être une sorte de housse ou de méditation, en tout cas comme ça, un arrêt, comme une de quelque chose qui est insensé souvent, que je trouve qu'on vit comme ça, on n'est plus en contact avec rien, et
ni avec soi-même
évidemment, et là on est à nouveau en contact avec quelque chose de profond de l'existence.
Alors vous qui êtes comédienne et qui venez d'une famille de musiciens, est-ce qu'il peut vous arriver, Valeria Bruni-Tedeschi, de penser les mots que vous dites comme des musiques?
Dans la vie?
Non. Dans le jeu?
Oui. Il y a une chose musicale, de rythme, de musique, de... Oui, absolument. Oui. Je pense qu'il y a dans un texte qu'on lit, il y a une musique, et dans la façon de le... il y a une musique des émotions, et il y a une musique, ça ne veut pas dire qu'on est extérieur, mais il y a une musique intérieure qu'on essaye de... Oui, il y a quelque chose, c'est absolument ça à voir avec la musique, oui.
Et avec cette histoire des deux langues qui sont les vôtres, le français et l'italien étant votre langue maternelle, est-ce que le fait justement de jouer en français, vous jouez aussi en italien, mais vous jouez beaucoup en français, notamment au théâtre, est-ce que ça permet aussi de prendre une distance et de laisser la musique se dire.
Ah, mais moi, je ne veux pas prendre de distance. Non. Je veux au contraire me rapprocher de moi. Donc, je pense que j'ai. C'est vrai, c'est deux musiques différentes en italien et en français pour moi. La musique en italien est plus proche de mon enfance et la musique en français est plus ma langue de la société. Je vais peut-être être plus à droite ici dans une émission radio en français, même si j'hésite quand même, mais en italien, je vais être encore plus hésitante, plus
timide.
Ouais, timide, maladroite. En tout cas, je suis plus comme dans ma cuisine. Je sais pas, j'ai plus de mal avec ma personne face à la société en italien.
Alors, peut-être que ce genre de transcription va vous intéresser, puisque Nicolas Godin, vous savez, l'un des membres du groupe R, s'est dit qu'il adorait Jean-Sébastien Bach, qu'il avait envie de l'approcher, que c'était pas sa langue, justement, sa langue maternelle à lui. Et donc, il s'est emparé de Jean-Sébastien Bach comme quelqu'un qui découvre une nouvelle langue. Comment je vais pouvoir l'aborder? Comment je vais pouvoir le reprendre? Comment je vais pouvoir le contourner, le détourner? Bref, il a écrit un magnifique disque autour de Jean-Sébastien Bach. Le disque s'appelle Contrepoint. Et je vous propose ici l'une des œuvres de Bach revue et corrigée par Nicolas Godin et tous les musiciens qui l'entourent. Club Nine, une sorte de drôle de mélange entre Dave Brubeck et Jean-Sébastien Bach. C'est le prélude en do mineur de Jean-Sébastien Bach et c'est Nicolas Godin qui a essayé d'arranger ça. Ça vous a beaucoup plu,
Valéria, vous n'étiez d'esprit. Oui, je trouve.
Comment s'emparer effectivement d'une langue et la rendre sienne.
Oui, on a l'impression que ça mène, enfin Bach qui est de toute façon moderne, mais c'est comme si on le prend et puis on l'amène ici, mais c'est intelligent et organique, c'est pas artificiel. Et hier j'ai vu un spectacle, La Mouette de Tchekhov à l'Odéon, mis en scène par Ostermeyer, et j'ai eu cette sensation-là de, comme ça, qu'il s'emparait de Tchekhov et qu'il faisait des injections de choses d'aujourd'hui qui étaient bizarrement acceptées par la pièce comme des greffes qui seraient acceptées et qui était très réjouissante. C'est un spectacle très beau.
Alors vous le disiez tout à l'heure, Valeria Bruni-Tedeschi, pour continuer dans ce sens-là, vous cherchez, vous, de plus en plus, ou depuis toujours, mais c'est une véritable quête, de vous rapprocher le maximum de vous-même. En jouant, on peut se rapprocher de soi.
Ouais, je trouve. Je trouve qu'on peut... Enfin, moi, c'est le travail. Un travail que je fais de moi, et puis aussi des gens avec qui je travaille. Je suis pas totalement en train de regarder que mon nombril et mes émotions. Il y a le personnage, il y a le metteur en scène, il y a l'autre acteur. Donc, il y a plein de choses. Mais il y a c'est comme une prise, il faut mettre une prise qui me met en contact avec moi-même et avec mes émotions. Ça, la prise, il faut la mettre. Si elle est débranchée, ça marche pas.
Alors, dans ce film de Paolo Virzi, Folle de joie, dans lequel vous jouez en italien, justement, c'est cette langue dans laquelle vous êtes maladroite, timide, quand on joue, ça s'estompe, ça s'efface?
Non, mais je pense que la maladresse et la timidité et le handicap sont de l'or pour un comédien et donc il ne faut pas les estomper, au contraire, il faut les offrir aux personnages.
Et ce personnage que vous jouez, donc c'est deux
amis. Si le metteur en scène est d'accord, et comme c'est ça un bon metteur en scène pour moi, c'est un metteur en scène qui est d'accord pour que le comédien lui offre et offre au personnage même des choses qui sont apparemment des défauts.
Oui, qui pourraient être des fragilités.
Des fragilités ou des défauts, même considérés comme des défauts. Et tout d'un coup, sous l'œil de ce metteur en scène, ce qui se passe pour moi avec Paolo Virzi, mais ce que je considère comme mes défauts ou des complexes ou des choses comme... Voilà, c'est accueilli, totalement accueilli et bienvenu.
Alors dans ce film, vous avez un rôle pas simple, vous êtes dans un hôpital psychiatrique avec une autre personne.
Michaela Ramazzotti, qui est l'autre actrice, on fait un peu un couple.
Une exubérante et l'autre au contraire.
Et l'autre sombre, voilà, et disons que je suis un peu comme l'ange blanc et l'ange noir, moi je serais un peu celle qui l'attire de son obscurité, mais on est toutes les deux pleines de malades de douleur, en fait. On est toutes les deux profondément désespérées, mais c'est vrai que je m'accroche à la joie comme à une possibilité de survie, à la seule possibilité de survie, et je l'entraîne avec moi dans cette recherche de la joie.
Alors Tchaïkovski, qui a été un profond dépressif, a écrit Le Lac des Cygnes, a composé Le Lac des Cygnes. Donc la valse de Le Lac des Cygnes est présente dans ce film.
Ouais.
C'est en écho justement cette joie-là qui en fait est une... La joie est presque obligatoirement attachée à la détresse.
Peut-être, ouais. Peut-être que la joie est d'autant plus forte que le désespoir... qui se pointe ou qui nous guette et profond.
Alors je propose qu'on écoute cette valse du Lac des Cygnes qui nous emporte dans ce tourbillon, effectivement, qui nous sort de la détresse, mais qui peut aussi nous plonger dans une forme de déprime un petit peu quand on pense à cette détresse qui est là sous-jacente.
Thank you.
Un extrait du Lac des Cygnes, la valse de l'acte 1 du Lac des Cygnes de Piotr Ilitch Tchaïkovski par l'Orchestre Philharmonique d'Israël sous la direction de Zubin Mehta. Valeria Bruni-Tedeschi, ça vous faisait penser à la danse aussi, parce que effectivement c'est la musique qui est dans le film dans lequel vous jouez, Folle de joie de Paolo Virzi,
qui sort mercredi prochain.
Voilà, mais ça vous renvoie aussi à la danse. Bien sûr.
Oui, bah oui, ça fait penser au Lac des Cygnes, évidemment. Et puis, en général, voilà, même quand je devais vous dire des morceaux, après ça m'est pas venu, mais les morceaux de musique classique qui font partie vraiment de ma vie, de mon quotidien, qui ont fait partie pendant longtemps, parce que là, maintenant, j'ai arrêté, je fais du yoga, donc il n'y a pas de musique. Mais pendant peut-être 30 ans, j'ai fait de la danse classique, et une des choses de la danse classique qui... Enfin, une discipline qui est très jouissive pour moi. Mais aussi, ces morceaux, toujours les mêmes, de Chopin, de Schumann, et qui, maintenant, pour moi, il y a des morceaux qui sont directement reliés à mes cours de danse classique.
Et qui nous tiennent en vie ou pas? Parce que quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est presque une structure.
Oui, qui font partie des choses. La danse pour moi ça a été une structure pendant longtemps, une façon de tenir debout à des moments, c'est le cas de le dire, à des moments difficiles et de me tenir. Hein. Oui, c'est vrai. Et en même temps de respirer. Oui.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Bon alors, Folle de joie, c'est de Paolo Virzi, c'est à partir de mercredi prochain à l'affiche, Valeria Bruni-Tedeschi. On vous entend jouer en italien, c'est bien aussi puisque on le disait à l'instant hors micro, mais ça nous donne l'occasion de vous entendre dans une autre voix, cette voix qu'on entend film. Là est un peu plus grave, je crois. Hein.
Peut-être qu'en italien, c'est un peu plus grave, oui. Mm. C'est, en tout cas, on se sent une autre personne. Moi, je me sens une autre personne selon que je parle en italien ou en français, ça c'est sûr.
Bon, mais vous allez pouvoir aller à Venise, à Paris, à partir de la semaine prochaine, puisque le festival Palazzetto Bruzane a lieu à Paris. Alors le Palazzetto Bruzane, c'est le centre de musique romantique française à Venise. Et pour la quatrième année consécutive, c'est ce Palazzetto vient à Paris. Alors il sera entre le Théâtre des Champs-Élysées et le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Une très belle programmation qui commence avec la tragédie Olympie de Spontini le 3 juin au Théâtre des Champs-Élysées et qui se poursuivra au Théâtre des Bouffes du Nord. Alors par exemple, vous pourrez entendre le pianiste Pascal Amoyel qui jouera du Liszt, du Chopin, Godard et Alcan le 5 juin, c'est un dimanche à 17h. Et puis le violoncelliste Henri de Marquette qui interprétera Ravel avec Jean-François Hesser au piano et des lauréats de l'Académie internationale Maurice Ravel 2015, le 8 juin au Bouffes du Nord. Alors Henri de Marquette qui sera donc à cette date le 8 juin au Bouffes du Nord va jouer là maintenant tout de suite du Chopin en duo avec Brigitte Engerer dans un nocturne. Je crois que c'est le nocturne numéro 2 en mi bémol majeur de Chopin, fait partie de vos choix. Alors le voici dans une version original puisque c'est violoncelle, piano, Henri de Marquette et Brigitte Engerer. un extrait de ce nocturne numéro 2 en mi bémol majeur, opus 9 de Frédéric Chopin, arrangé par Brigitte Engerer au piano et Henri de Marquette au violoncelle. Henri de Marquette que vous pourrez aller voir, applaudir même le 8 juin au Bouffe du Nord. Il interprétera du Maurice Ravel aux côtés de Jean-François Esser dans le cadre du festival Palazzetto Bruzane à Paris. Vous irez, vous, Valéria Barinette-Deschi?
Pourquoi pas, oui.
Vous aimez bien sortir?
Je ne sors pas beaucoup parce que j'ai des enfants petits, mais j'aime, ouais, je
vous aime bien voir du spectacle.
Ouais, bah oui.
Merci beaucoup en tout
merci
cas
à vous
d'être venu.
Merci à vous.
Je rappelle que votre film donc Folle de joie sort le 8 juin prochain partout dans toutes les bonnes salles.
Ouais.
Et puis on espère vous voir bientôt dans d'autres beaux projets comme cela.
Merci. Merci beaucoup.
Merci. À bientôt.
Au revoir.
Merci à Marianne Crimbaud, Camille Pouxjalaguet, Claire Destacan, Alexandra Ramos da Silva, la technique c'était Sandrine Laurent, pardon.
Pour ça.
Ah, vous la connaissez, oui. Demain nous recevrons Florin Niculescu. Salut Charline Van Hoenacker.
Bonjour Elsa Boublil.
Vous êtes avec des compagnons de maison, je crois.
Oui, Guillaume Erner est venu.
Je suis là, Elsa.
Salut Guillaume, ça va?
Eh ben ça va très bien.
Allez, prenez le micro.
J'ai fait la sieste.
Ah bon, tout va bien alors. Bon,
ben, Guillaume Erner, transfuge de culture à Inter pour le temps d'une heure.
C'est bien.
Je vais essayer de monter le niveau.
Allez,
on essaye. C'est ce que Charline m'a demandé de faire.
Ah bon, c'est vrai?
Ben voilà, je vais essayer.
Allez, belle émission.
Merci Elsa.
Ciao.